Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode des podcasts du Lab, podcast qui parle d'endodontie et de management. Oh là là, les bons élèves, incroyable. Podcast de confrontation d'idées pour une créativité collective. Merci Coris. Je suis sûr que tu es le meilleur élève à l'école quand même.
Non, je pense que je peux te remplacer la semaine prochaine.
Ah ouais, tu crois?
Tu veux aller au ski ou pas?
Non, mais par contre, est-ce qu'on aura assez de mémoire sur les cartes mémoire?
Je sais pas.
Ou assez de piles dans l'enregistreur? Bon, en tout cas, t'es le bienvenu. Donc, à ma gauche, pardon. Marc, je sais plus où est ma gauche de ma droite, dis donc. On est fatigué après autant de semaines de retrouvailles sur le podcast. Marc Vercherin, ça va Marc?
Ça va.
T'es en forme?
Ouais, ça va.
Bon, cool. Baptiste Rivori, toujours présent.
Tout va très bien.
Tu les as tous faits. Hein. Mais Marc aussi, ouais, vous étiez tous toujours présents. Des fidèles au poste.
Exact.
Coris.
Aujourd'hui, il fait un peu moche.
Mais ah ouais.
La semaine dernière, il faisait beau. Là, aujourd'hui, c'est.
Le temps bouge vite en une semaine.
Non, mais je suis ravi.
Merci d'être venu.
C'est toujours des bonnes expériences avec vous.
Merci beaucoup.
Vous savez recevoir.
C'est que les premières.
C'est vrai.
Sandrine. Ça va, Sandrine?
Très bien. Je suis très contente d'être là.
Cool, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je vous propose, comme vous le savez, vous découvrez le sujet en même temps que moi, je vous propose de répondre à la question suivante. Est-ce qu'il faut travailler à quatre mains pour être performant en endodontie? Parce que j'ai l'impression, en plus, avec Baptiste, on le sait, on a fait beaucoup de démonstrations en direct à l'ADF même, sur le travail à quatre mains, l'ergonomie, etc. Donc j'entends des injonctions qui parfois m'ont interpellé en me disant « mais si on n'est pas là à quatre mains, on ne peut pas travailler correctement ». Et puis du coup, ça a mis en place dans notre activité le fait que l'on devait systématiquement être assisté. Et puis parfois, on a des problèmes de management ou d'absence de personnel. Et ça, on les a tous. Et on se retrouve tout seul. Et on se dit, mince, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Puis au final, on se rend compte que tout seul, on s'en sort aussi très, très bien. D'autant plus que j'ai un ami, et dont je tairai le nom, on pourra en parler de toute façon, qui travaille seul. Et qui travaille seul, tout seul, qui fait sa sté, etc. Et il s'en sort aussi très, très bien. Donc, je voudrais savoir comment vous travaillez. Est-ce que vous travaillez à quatre mains ou pas? Et est-ce que pour vous, c'est une obligation ou c'est simplement un petit plus? Qui veut se lancer? Baptiste?
Ouais, il a l'air chaud.
Ah bah oui, c'est son sujet. Parce que Baptiste, c'est lui qui gère toute l'équipe des assistantes.
Donc, on va faire du management aussi.
Donc, c'est à moi de parler.
Oui,
Alors, c'est vrai qu'on a pu échanger rapidement avant d'enregistrer sur cette question-là. Je ne sais pas si je vais être trop direct et j'ai pas envie non plus de fermer la discussion. Mais
tu vas pas donner la conclusion tout de suite.
Si, voilà.
De toute façon, ce sera ta conclusion.
Exactement.
Je serais peut-être pas d'accord avec toi, par exemple, ou Sandrine non plus.
Bah, j'espère.
Au moins non plus, peut-être.
On pourra échanger. Mais je trouve que c'est une question très intéressante et c'est vrai que j'aime bien cerner les sujets, donc je pense la définir et c'est la première chose la plus importante, je pense. Qu'est-ce que c'est d'être performant en endodontie? Je pense qu'on peut souligner différents types de performances, quoi. Si c'est de terminer une endodontie, si notre performance c'est de terminer l'endodontie, qu'il y ait des aides optiques ou pas, je pense que tout seul, on est largement équipé pour pouvoir terminer. Je pense qu'on partage tous cette idée autour de la table. Si derrière, la performance, c'est d'aller soigner des dents qui sont très dures techniquement, d'aller chercher des anatomies assez particulières où il faut beaucoup de temps de travail, déjà, on sent que ça va devenir un petit peu plus compliqué. En tout cas, pour ma part. Derrière, ça demande une certaine créativité dans les protocoles. Si on veut pouvoir atteindre cette performance, notamment, je pense à regarder en vision indirecte et avoir une aspiration, il va falloir trouver une astuce. Le dernier niveau de performance que je pourrais définir, à mon sens, ce serait de faire la plus belle endo dans le temps le plus rapide possible. Et là-dessus, pour moi, je ne vois pas d'autre solution que d'être assisté. Pour moi, c'est des paramètres où, si on veut tout aligner, effectivement, il faut que l'instrument puisse arriver préparé au bon moment et que derrière, les protocoles soient travaillés par une équipe. C'est un petit peu comme pour la Formule 1, si vous voulez, quand ils arrivent au pit stop, tout est préparé, boum boum, et après, en deux secondes, le pilote est déjà parti. C'est un petit peu ça que je vois. Donc,
tu veux dire que si on inclut la notion de temps dans la performance, ouais, on ne peut pas le faire sans être assisté.
Donc, c'est pour ça que ça me paraissait primordial déjà de définir la performance, parce que forcément, on va tous mettre le curseur à un endroit différent.
C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une très très belle endo sans être assisté.
Ouais, exact.
Mais ce sera plus long.
Exact.
Puis le confort aussi.
Ouais, le confort, l'ergonomie, c'est certain.
Le confort physique, tu veux dire ?
Ouais, physique, ouais. Ouais, physique, mental.
La prévention des troubles musculo-squelettiques.
Mental,
physique,
mental. Ouais, les deux, ouais.
Et mental, est-ce que être assisté par quelqu'un qui est dur à manager peut devenir aussi une charge mentale un peu lourde ?
Ou être assisté quand on est un mauvais manager aussi ?
Tout à fait. Ouais,
c'est que des fois, la faute n'est pas que dans un sens.
S'il y a une faute, encore une fois. Peut-être de personnes qui ont du mal à se rencontrer.
Ou parfois aussi, le côté, t'évoquais le côté négatif de se faire assister, ça peut être d'avoir des protocoles trop rigides et de ne pas se sentir libre parce que la personne en face, pour coller au protocole, pour satisfaire la personne en face. Parfois, on pourrait se dire, je me sens libre de dévier du protocole parce que je suis seule à le suivre. Mais si j'ai quelqu'un avec moi qui, lui aussi, suit ce protocole, je ne vais pas sortir parce que ça va le déboussoler et que je n'ai pas envie de le déboussoler.
Mmh. Alors moi, j'ai un peu l'avocat du diable, mais j'ai un peu, du coup, pour le coup, la vie inverse. C'est-à-dire que justement, le fait d'être avec quelqu'un et d'avoir ce protocole, on est un peu obligé de s'y tenir, justement. Et c'est vrai que moi, personnellement, moi qui débute en endodontie, le fait de rester dans ce cadre et de valider toutes les étapes du soin les unes après les autres, personnellement, ça m'aide beaucoup actuellement. Et ça me permet justement de ne pas prendre de raccourcis et d'être plus reproductible. Voilà, pour avoir un peu le contre-argument.
Oui, tout à fait. Non, mais je
en tant que jeune endodontiste, moi, je sais que c'est...
Non, c'est vrai... je partage ton point de vue, mais peut-être que toi aussi, en tant que jeune endodontiste, mais pas que les jeunes, d'ailleurs, à un moment, tu te dirais, je trouve que j'arrive pas à obtenir ma perméabilité, je passerais bien 2-3 instruments de plus, mais tu vois que la personne en face s'impatiente et qu'elle t'a déjà préparé ton ciment d'obturation. Et il y a des gens qui se mettent la pression.
Elle te pousserait
dans la rigidité, la personne en face se dit, l'assistante qui trépigne, qui regarde l'heure, qui a le patient en salle d'attente, et qui va te mettre cette pression. Ouais. C'était plus ce côté-là, évidemment, après, sur le fait qu'on ne prenne pas de raccourcis, je suis d'accord. Mais parfois, tu as envie de prendre des rallongis. Voilà.
Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a...
Tout le temps.
Ah oui ?
Tout le temps.
Disons, t'es bien soutenu.
Il marque des points
creux. Ouais, grave. Mais du coup, ce que j'essayais de dire, c'est qu'on peut être mal assisté.
Oui, mais ça... Oui, assisté, ça n'implique pas forcément, comme le disait Coris, la faute de l'autre.
Je veux dire, ça peut être... Déjà... De toute façon, ce qui se passe au fauteuil, c'est la responsabilité du praticien, ça c'est clair. Même s'il est mal assisté, c'est lui qui laisse le fait que cette chose-là reste en place. Mais globalement, c'est possible. C'est pas parce qu'on a une assistante qu'on est bien assisté.
Non, mais voilà, il y a deux choses.
C'est très très juste.
Il y a deux questions, en fait. C'est, est-ce qu'on a besoin d'une assistante ? La deuxième question, c'est une fois qu'on a besoin d'une assistante, c'est comment on gère pour avoir une bonne relation. Mais déjà, la question, est-ce qu'on a besoin d'une assistante, c'est déjà, on l'a éludé cette question. On est d'accord, on a besoin d'une assistante.
Tout dépend du niveau de performance.
Du niveau de performance que tu veux. Oui,
encore une fois. Je parle de mon copain Ando qui travaille sans assistante. Je me ferais faire une Ando les yeux fermés par lui.
Mais attention, quand je parle de performance, c'est pas de technicité Ando. Parce que, je pense.
Oui, c'est ça, c'est le
timing. Je pense que ton copain, par exemple, ne va pas faire 4 endos par jour.
Ah bah non.
Donc la performance est différente. Mais le résultat endodontique est exactement le même.
Tout dépend où on situe la performance.
Exactement. On revient dessus. Il y a quand même des fois où tu as besoin de 2 mains supplémentaires à la chirurgie. Là, tu te demandes est-ce qu'on a besoin de 4 mains. Mais moi, en chirurgie, je kiffe le 6 mains. Genre, moi, en chirurgie, je suis quasiment tout le temps en 6 mains. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une assistante qui est volante. Alors, elle n'a pas des ailes, mais elle sait à quel moment elle doit arriver, au moment la napate, où elle doit prendre le petit tissu qu'on met dans le flacon, et au moment de l'obturation. Elle vient au moment de l'obturation, et franchement, c'est génial. au moment de l'obturation, d'avoir ses 6 mains. Ça change totalement la vie par rapport au saignement, au risque de saignement et tout. Voilà. Donc, en gros, mais c'est vrai que je trouve qu'il faut parler du ciment aussi. Voilà, du ciment en chirurgie.
Du ciment en chirurgie.
Ah, ouais, moi, je pense que c'est un vrai sujet.
Ah, bah, bien sûr, la chirurgie, ça fera l'objet d'un autre podcast, mais effectivement, oui, c'est là où ça rajoute encore.
Et donc, et le 4 mains en endo, il y a quand même plein de fois où. Franchement, si j'ai pas d'assistante au moment de la dépose et des restaurations coronoradiculaires, de la cavité d'accès, t'as une perte de rendement. Même, je parle financièrement, là, purement financièrement. C'est que si tu veux à peu près au même niveau de qualité, tu vas donner un petit coup de fraise, tu vas sécher pour regarder, donner un coup de fraise. Voilà. Donc en fait, la question, je pense, se pose en général pour les gens qui n'ont pas d'assistante, c'est plutôt un problème de management. Ils disent, mince, j'arrive pas à manager, ils ont eu des conflits. Donc, voilà, mais un peu comme un couple, hein, tu vois, il y en a qui vivent célibataires parce qu'ils n'arrivent pas à vivre en couple, tu vois. Donc, ça, c'est un peu, je pense, la même chose. Et puis après, l'angoisse. L'angoisse de se dire, est-ce que je vais pouvoir payer quelqu'un? Est-ce que ça va être rentable? Voilà, à mon avis, c'est les deux barrières. Mais une fois que c'est franchi, en général, ces deux barrières, c'est rare que tu ne trouves pas ton compte aussi bien financièrement que qualitativement.
On a eu un petit moment là où on manquait un peu de personnel. Donc, tu vois, mon assistante, elle partait après la cavité d'accès, puis elle revenait à la fin pour l'obturation. Et on a tous vécu ça, hein, de toute façon, des moments.
Elle était volante.
Ouais, c'est ça. Un peu. Et j'ai été surpris par le fait de me retrouver dans une espèce de bulle de sérénité avec mon patient et moi, quoi. Mais ça m'a pas du tout manqué, voire même ça m'a même limite apaisé, parce que je sais pas, j'ai peut-être ce problème qui est de prendre la charge mentale de l'autre quand l'autre travaille à côté de moi. Vous voyez ce que je veux dire?
Parfois, okay, peut-être mieux être seul que mal accompagné.
C'est un vrai sujet.
Il y a des analogies aux voitures, mais il y a des analogies aussi au couple, finalement.
C'est un couple. C'est un couple.
Non, parce que la semaine dernière, on parlait des analogies aux voitures.
Et avant
la cuisine.
Et avant, c'était la cuisine.
Par exemple, il y a plusieurs personnes qui cuisinent différemment. Je sais que quand je cuisine, si tu viens mettre tes mains dans ce que je fais, ça me remet hors de moi, par exemple.
Ouais, ça, tu l'as dit il y a 3 semaines.
C'est vrai que l'intérêt d'être assisté, c'est aussi de rendre son cerveau disponible sur le centimètre carré de dent qu'on est en train de soigner. Et si on est avec la personne qui assiste, qui fait du raffut à côté, toute cette concentration sort du microscope. On fait attention à ce qui est en dehors, la périphérie. Et là, je pense qu'on peut perdre en qualité de soins.
Ouais. Et alors, après aussi, donc il y a 2 éléments. Moi, je trouve que l'assistante, elle est très importante dans la gestion de la sepsie.
Ça,
si tu commences à avoir des critères de sepsie importants, tu commences à avoir des protocoles complexes. Voilà. Et deuxièmement, elle a aussi un rôle de copilote. C'est-à-dire que des fois, moi j'ai ma assistante qui est capable de me donner des coups sous la table en faisant comprendre que je suis en train peut-être de faire quelque chose qui va pas.
Des fois, elle est pas obligée de donner un coup
sous
la table.
Elle le dit ouvertement, des fois aussi. Voilà.
C'est pas la bonne dent. On ne prendrait pas une autre radio.
Non, donc ça, c'est
on
quand même.
On ne ferait
c'est
pas.
C'est quand même pas mal.
Et si tu es copiloté par quelqu'un qui te dit tout le temps ça alors qu'il n'y a pas de raison?
Non, mais ça, c'est le management. On y verra après. On va y aller sur le management. Ça, c'est un autre débat. Mais parce que là, on essaie de finir le débat comme quoi il faut une assistante. Et le troisième élément, c'est le fait que aussi la vision patient. C'est-à-dire que nous, quand on travaille sur la dent, on a moins cette vision patient. Et c'est vrai que l'assistante, elle peut avoir cet effet rassurant. Elle peut accompagner le patient dans des événements, tu vois, genre le patient qui la salive qui déborde de la bouche, toi tu le vois pas, t'as ton pantalon qui commence à être mouillé par la salive du patient,
dis, c'est chaud, c'est froid.
Ah, dis donc, ça y est beaucoup tes patients. Ouais.
Non, mais t'as des choses comme ça, voilà. Donc je trouve que moi, bien sûr, on a tous travaillé sans assistante, et moi aussi on a vécu un moment de mou dans notre cabinet où on s'est retrouvé avec moins d'assistante. Aujourd'hui, nous, pour 2 praticiens qui travaillent, il y a toujours 3 assistantes. Voilà. Quand on s'est retrouvé à une, alors c'était à galère, hein, c'est vrai que tu rentres à 23h, tu fais de l'asté et tout ça, mais même à deux, c'est quand même entre le temps que l'asté soit faite et tout, moi j'ai du mal à le concevoir sans assistante. Après, tout est possible, c'est comme tu dis, si tu fais 2 endo dans la journée, c'est possible, mais je suis pas sûr que ça soit efficace en termes de santé publique, même. Combien de patients tu vas pouvoir soigner?
Non, il y a quand même des choses que l'assistante apporte qui sont irremplaçables. Et effectivement, par exemple, humainement, quand ça devient tendu avec un patient, moi, je sais qu'il y a parfois des patients, c'est humain, quoi. Il y a des gens avec qui c'est plus facile ou c'est moins facile. Et moi, je sens mon assistante, elle prend le relais humainement avec le patient. Et parfois, ça me fait du bien parce qu'il y a des patients, bah, je ne vais plus avoir la patience de leur expliquer certaines choses que j'estime leur avoir expliqué suffisamment de fois et qu'ils n'ont toujours pas compris. Peut-être qu'ils ont besoin qu'une tierce personne leur explique ou que... Et ben ça fait du bien, ouais. Ça fait du bien que l'assistante
aussi peut aussi générer ce genre de problème.
Oui, alors disons que c'est le management, on y va.
Exactement. Topic 2. C'est qu'en fait, peut-être que la solution, c'est que travailler avec une assistante implique des règles de management.
Tout à fait. Alors moi, je vais être très concis là-dessus. Je pense que clairement, mais ce qui est valable, donc j'ai lu un truc justement récemment là-dessus. Mais genre, c'est quelque chose qui est frappant. Hein. Genre, je pense que après post-bac, on a des études, on fait des études, alors soit médecine, soit voilà, pour apprendre un métier, mais on n'est pas formé au management. Et en fait, on a tous des compétences, et souvent on se retrouve aujourd'hui dans tous les boulots, que tu as fait des études d'ingénieur, je ne sais pas quoi, tu es confronté à des travails en équipe. Et avec justement une sorte de verticalité du management et qui n'est pas enseignée dans les universités, genre en dentisterie. Hein, genre, nous, on n'a pas eu de formation, on a peut-être eu une heure. Il y a des gens qui ont cette sensibilité interne. Genre, j'imagine, toi, Mathieu, on te voit, genre, tous les trois, on vous voit, vous êtes des gens aimants et tout ça. On a l'impression que vous avez cette capacité de manager, on sent tout ce que vous faites, mais tout le monde n'a pas cette sensibilité. Et donc, il faut se former. Et c'est vrai que c'est le vrai truc, c'est qu'en fait, je pense, qu'il y a les compétences, mais pour réussir un boulot, et nous on le voit aussi d'ailleurs avec Endodata, le management, il est très 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 important, parce que t'as beau avoir tout le savoir, si t'es pas capable de gérer une équipe, tu vas au talus. Voilà. Et donc une assistante, ça se forme. Une assistante, ça s'emmène dans des congrès. Une assistante, ça, c'est passer du temps avec elle pour lui expliquer les choses, la motiver. Et en fait, donc c'est ça que pour moi, le mot de la fin, pour ma fin à moi, parce qu'après j'arrêterai de parler, parce que j'ai beaucoup parlé.
Personne n'y croit. Hein.
Si, j'y crois. C'est que le management, c'est quoi ? C'est donner de l'énergie aux autres. C'est qu'en fait, c'est pas dire à son assistante, ouais, c'est bien, t'as bien fait. C'est le matin, t'arrives, tu dois avoir l'énergie pour donner l'énergie à ton assistante. Et d'énergie aux autres et de dire ok tiens on va faire ceci tatac. Et en fait cette énergie ton assistante va te la redonner et c'est vraiment un ensemble et qui fait que t'as un vrai travail d'équipe et voilà moi c'est un peu ma philosophie
donc c'est un investissement
et donc
mais oui, elle te le rend
voilà ça c'est en gros c'est un investissement financier parce que tu payes quelqu'un donc
en termes d'énergie
c'est aussi un investissement en termes d'énergie et souvent les gens ils disent je vais payer quelqu'un et ça va suivre. Non, il ne faut pas payer simplement quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas juste des charges salariales plus un salaire à payer. C'est aussi une énergie à donner dans le management de la personne. Et ça, on croit tous au truc magique et juste en balançant de l'argent que ça fonctionne. Non, il y a vraiment une énergie à donner.
Baptiste Rivori.
Oui, c'est moi.
Tu veux rebondir parce que tu as combien d'assistantes, toi, à manager
Nous, on a une équipe de 7 assistantes pour 5 praticiens.
Donc j'imagine que tu as mis en place tout ce dont parle Coris.
Exact, ouais.
Des outils de management.
Ouais, en fait, effectivement, tu parles d'énergie. Je vais utiliser un mot qui me parle peut-être plus. C'est de la considération en fait à la personne. Et c'est vrai que cette considération, en fait, elle doit être entretenue tout le temps, au quotidien. Nous, ça va passer par différents outils. Ça va être à la fois les briefings, débriefings des soins, où en fait l'assistante est vraiment impliquée dans le soin. Et ça va être aussi par des rencontres hebdomadaires, donc c'est ce qu'on appelle nous des 1-1.
Des one-to-one.
Ouais, exact. Où en fait on va définir des objectifs, définir aussi le rôle de l'assistante par rapport au sens du cabinet.
Parfois être juste à l'écoute aussi.
Exactement, c'est pour ça qu'en fait c'est vraiment de la considération pour moi.
C'est-à-dire que tous ces outils-là qui se mettent en place commencent à apparaître et être nécessaires quand l'équipe grossit.
Exact. Ouais. En fait, pour résumer un petit peu tous ces outils qui sont mis en place, c'est si on veut pouvoir gagner en disponibilité pendant le soin, il faut donner de la disponibilité en dehors en fait, pour moi, c'est juste ça. Donc, c'est vrai que nous, on a fait le choix que ce soit plus des praticiens en particulier qui donnent du temps aux assistantes, mais derrière, c'est tous les praticiens qui en profitent, en fait. Donc, c'est assez
concrètement,
puissant.
Par exemple, pour expliquer ton système de mise en forme, ton protocole, tu ne vas pas le faire pendant un soin, tu vas dégager un temps hors de soin pour l'expliquer ou...
plutôt. Ouais. Après, c'est vrai que pendant le soin, il y a des questions auxquelles on peut répondre facilement. Mais après, si c'est vraiment un concept où je sens que l'assistante a un blocage et qu'elle a besoin de schémas ou de choses comme ça, on va prendre un temps de débriefing à la fin du soin où on va reprendre.
Et si tu as une assistante qui, pendant le soin, tu dis mais pourquoi vous n'êtes pas allé au bout de la racine comme d'habitude? Tu
arrives quoi? Bon, on va faire un point à la fin du soin.
Devant le patient. Ah, c'est des situations qui peut-être déjà arrivées. C'est pas évident de gérer ça aussi. Hein.
Ouais.
Et vous faites beaucoup de débriefing. Donc, j'ai un débriefing qui est quand il y a des incidents, ça, donc il y a des débriefings post-incident, genre pas incident grave, mais voilà. Et après, est-ce que vous avez des débriefings, c'est quoi? C'est une fois par semaine avec l'assistante, collectivement? Genre, c'est quoi la méthodologie globalement?
Pour nous, on essaye de systématiser à la fin de chaque soin. Donc, c'est là.
Sur les débriefings de soins.
Exact. Et derrière, après, sur toutes les évolutions protocoles, etc., c'est plus des réunions de travail qui ont lieu tout en équipe. Mais sur la performance au sein du soin, par exemple, je ne sais pas, une AD qui impose un peu son rythme ou qui n'est pas dans le... Bah, on va vraiment lui reprendre, en fait, tout le principe et comment on pense qu'elle peut améliorer sa position, tu vois, dans le soin.
Ouais. Et ensuite, d'un point de vue personnel, chaque personne est accompagnée par un rendez-vous d'une demi-heure par semaine qu'on appelle un one-to-one avec son manager au-dessus. Ou là, par exemple, je sais pas, t'as Roger qui est énervé parce que Janine lui a mal parlé, ben Roger va voir avec son N plus 1 comment gérer ça, comment mettre en place, comment mieux parler peut-être à Janine, ou alors se dire que c'est complètement normal et que lui a pas vu que c'était normal, etc.
C'est bien.
Ouais. Ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que du coup, parce que par exemple, dans la démonstration en direct qu'on avait faite à l'ADF, les personnes à la fin, ou même dans les commentaires, il y avait pas mal de personnes qui nous disaient combien vous la payez, ou moi aussi je veux la même assistante, est-ce que je peux la débaucher, etc.
Tu veux dire qu'il associait le salaire à la performance
exact,
de l'assistante.
Et que, en fait, il y avait pas mal d'idées qui ressortaient comme quoi on avait eu la chance d'avoir une assistante qui arrivait à faire ça, quoi.
Comme si tu touchais la perle rare, quoi. Ce qui est vrai, hein, c'est plus chanceux des fois quand t'as des personnalités qui sont plus adaptables.
Mais t'as plus de chances d'avoir la perle rare si en fait t'as des outils pour l'accompagner, quoi. Et en fait, en échangeant assez rapidement, on se rend compte que déjà pour chaque personne, chaque semaine, il y a au moins 3 outils qui lui sont proposés. Des débriefings, des 1-1 et des réunions de travail en équipe. Donc, pour pouvoir... c'est vrai que je vais ressortir l'anecdote de Mathieu où un jour, Cindy lui sort la phrase qu'il lui faut, même avant que Mathieu l'ait verbalisée. En fait, avant d'avoir cette disponibilité pendant le soin, où en fait, c'est même anticipé parce qu'elle est rentrée dans ton cerveau, c'est vrai qu'avant, il y a eu tellement d'énergie de donner. Que c'est ça qui va te permettre de...
Qui rend les choses disponibles.
Ouais, voilà.
C'est le travail qui est en amont. Ouais. Voilà. Ouais, ça. Non, mais c'est intéressant. Bon, pour la petite anecdote, c'est pas le salaire qui fait la performance. Ça va l'entretenir, ça va fidéliser. Il y a plein de facteurs qui vont... Puis il y a des gens qui viennent vraiment chercher un salaire. Hein, attention, hein. C'est pas le sujet. Hein. C'est pas un gros mot non plus. Mais sans management, ça va vite être limité. Hein. C'est ça un peu l'idée. Se dire que de toute façon, les études ont montré qu'en 3 semaines, quand tu as une augmentation, tu l'as oublié. Mais c'est vrai. Donc du coup, c'est assez déroutant de voir ça. Donc c'est pas forcément là-dessus que... Par contre, l'aspect social...
3 semaines, t'as oublié tes impôts quand ils ont augmenté aussi.
Ouais, exactement. Non, mais bien sûr, non, mais c'est pas ça.
C'est vrai,
c'est parce que c'est pas le sujet. C'est pour ça que l'inflation, tout ça, c'est pas forcément le sujet. Par contre, l'accompagnement humain, oui. C'est-à-dire que dans ces 1-1, l'écoute, sur quel levier on va accompagner la personne que l'on a en face de nous, est-ce qu'on va développer son développement personnel avec des formations qui vont lui apprendre un peu d'agilité, etc., ou l'accompagner là-dedans, ou est-ce qu'on va lui chercher ce qu'on appelle des hard skills, c'est-à-dire du développement technique, je ne sais pas, des formations sur la mise en forme, sur l'obturation, sur la sepsie, sur le... Voilà. Et là, on va en fonction des niveaux, en fonction de ces échanges-là, on va pouvoir les ajuster grâce à ces rencontres-là. Et deuxième chose qui me paraît très important, c'est de les compartimenter. Que ce soit pas quand l'autre personne en face décide que l'on aborde ces sujets-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, que ce soit compartimenté, que c'est de telle heure à telle heure, tel jour. J'ai une demi-heure consacrée à vous.
De part et d'autre, c'est prévu. Ah oui. C'est pas et imposé c'est par pas, l'un non. ou par l'autre.
Et les filles le savent, hein. Elles viennent pas déranger. Et nous, on va pas les déranger aussi quand elles sont en sté. Excusez-moi, Luna, il faut que je vous parle de ça. Non, ça se passe pas comme ça. Je note et puis on aborde les sujets dans des moments qui sont dédiés à ça.
Ça fait rêver, on a envie de bosser chez elle.
Ouais,
c'est vrai, c'est ouf. Hein, c'est genre, en fait, on va rester, finalement, on reste ce soir. Lundi, vous avez une place pour nous.
Alors, non, mais c'est vrai que ce podcast, il est d'endodontie et de management. Et ouais. C'est ça qui est important, c'est de transmettre aussi ce qu'on a compris. Quoi. Mais,
c'est un gros travail. Hein.
Oui, par exemple, tous les soirs, je débriefe avec mes secrétaires de la journée, ce qui s'est passé. Mais la journée, c'est si par exemple elles ont un conflit avec un patient, une difficulté à gérer, si tu fais le travail à leur place, elles trouveront jamais la liberté et la créativité pour pouvoir le gérer elles. Et donc ça, on a l'impression que c'est leur rendre service, mais c'est pas du tout rendre service à quelqu'un que de te faire à sa place. Ça s'appelle du management d'experts et à la fin, il se passe deux choses. Il y en a un qui évolue pas parce qu'elle crée pas et l'autre qui prend toute la charge mentale et qui s'épuise. Et c'est propice au burn-out et à la fatigue chronique. Donc à ce moment-là, c'est vrai que libérer la personne là-dedans et lui laisser... par contre, c'est vrai qu'il faut lâcher un peu. C'est-à-dire, elle se casse la gueule, peut-être que ça va être difficile, on va l'accompagner, elle va créer, etc. Mais après, on sera tous tranquilles quand il y aura une difficulté comme ça à gérer. Et ça se fait le soir dans un débriefing. Pas pendant le... Sauf urgence.
Hein. Alors, vous ouvert. Êtes formé comment tout ça genre, c'est de la lecture, c'est de l'instinct, c'est des cours
Alors, Baptiste, tu veux répondre?
Ouais. C'est un peu de tout ça. Un peu de tout ça, des podcasts, pas mal de podcasts. Donc là, c'est Mathieu qui avait commencé à écouter l'outil du manager.
En fait, ce qui s'est passé, pour rebondir, parce que tu parles de ça, j'ai une équipe exceptionnelle aussi. Hein, c'est-à-dire que je me suis pété les deux épaules au CrossFit. Donc j'ai dû me faire opérer. Et comme j'avais des antécédents de blessures au rugby, j'étais exclu par mes assurances. Donc ce qui fait que le deal avec les gars, ça a été de dire, je maintiens ma rémunération, mais en même temps, je vais me former sur le management pour développer le cabinet comme on l'a développé. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai lu, appris, et puis moi, je suis plutôt assez autodidacte, quoi. Mais ça peut ne pas convenir à tout le monde. Hein. Et donc, des podcasts comme Outils du manager de Cédric Watine, qui sont absolument géniaux.
Ces formations aussi.
Ces formations en ligne, c'est extrêmement pragmatique. C'est de l'outil et pas du concept permanent. C'est ça qui est agréable. Il faut les mettre en place, il faut faire ça plutôt que dire oui, il faut être sympathique, le management bienveillant, tout ça qui est un peu pompeux et un peu pénible. Mais ça marche aussi avec même les praticiens, hein. Ça, c'est très important. Hein. Je pense que quand Marc est arrivé au cabinet, il a fallu l'accompagner et pas lui dire vas-y, fais tes endos et débrouille-toi. Je pense que c'est vrai.
On a commencé les un an avant que je commence à travailler au cabinet.
Ah oui.
On faisait déjà des réunions toutes les semaines. Pour savoir comment j'allais, ce qu'on pouvait améliorer.
Oui, mais c'est intéressant, ça veut dire que les choses se planifient, c'est un processus comme avec une assistante en fait. On va surperformer à quatre mains, mais il va falloir accepter la notion de processus où on va déléguer quelque chose. C'est pas, par exemple, tu veux déléguer les commandes, c'est pas du jour au lendemain, tu vas laisser les commandes à Roger et lui dire écoute Roger, maintenant il faut que tu gères les commandes. Non, c'est un processus la délégation, il faut accepter que ça s'inscrive dans le temps avec un début, une fin qui ne s'arrête jamais mais qui s'accompagne. Et petit à petit, après, la confiance, elle est là et tu laisses complètement ton bébé, tu laisses complètement les clés du véhicule, quoi.
Ce qui est marrant, c'est que dans ce qu'on retrouve maintenant dans l'évolution de la profession, il y a de plus en plus de managers qui créent des cabinets dentaires, tu vois. Et donc, c'est marrant, justement, vous, c'est des dentistes qui ont appris le management pour adapter justement...
Là aussi, ce que tu dis, c'est passionnant, c'est-à-dire que... dans le monde médical, c'est pas vrai dans tout le domaine, mais dans le monde médical, il a été démontré, parce que ces questions-là, elles ont été réfléchies, que le leadership est très important. Et pour que les gens suivent un manager, il faut qu'ils développent du leadership. Et nous, notre leadership, il repose sur notre capacité à soigner, en fait. Et donc, c'est pour cela que certaines personnes postulent pour rentrer en fonction de qui tu es, et que ce soit le praticien, l'assistant, etc. La première chose, si moi je recrute une assistante et qui se met du jour au lendemain, on va changer de manager, puis c'est Baptiste qui va manager, il y a de fortes chances qu'on va la perdre, parce qu'au bout d'un moment, elle n'a plus la même référence de leadership.
C'est sûr.
Et donc, du coup, il faut l'accepter, c'est normal. Sauf, ça peut bien fonctionner, hein, mais bon, c'est vrai que c'est. D'où, par exemple. Quand Baptiste, puisque c'est lui qui s'occupe des assistantes, c'est lui qui recrute. Moi, je n'ai pas mon mot à dire. Parce que c'est lui qui va manager cette équipe. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, tout ça pour vous dire que les hôpitaux qui marchent le mieux sont ceux qui sont managés par les médecins, qui se sont formés au management, et pas les personnalités extérieures. Alors, on trouvera toujours des moments où ça fonctionne. Alors, peut-être que ça fonctionnera pour des postes qui sont moins clés que des praticiens, mais les praticiens, en tout cas, je ne vois pas d'autres personnes que des praticiens qui pourront les manager. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais...
Oui,
J'ai trop peu d'expérience sur cette question. Non, mais je pense que...
Alors, il faut que le manager soit très habile. C'est un vaste sujet. Hein.
En tout cas... mais imaginons demain, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout de notion en endodontie qui vous dit comment faire votre activité.
Non, ça oui, bien sûr, c'est pas possible. Mais non. Après...
C'est du leadership, par exemple.
Exactement.
Ouais, ouais.
En fait,
tu as donné une légitimité à la personne qui t'accompagne.
Mm-hmm. Ouais, après,
il y a des gens qui peuvent m'accompagner sur des points qui ne relèvent pas du cœur de mon métier et de ma compétence.
Regardant les boîtes de tech, il y a quand même des fois des compétences différentes, ils s'associent et ils arrivent à trouver des...
C'est pas de la gestion globale, c'est plus de l'audit sur certaines... sur certains points, quoi.
Ouais, ça, ouais. Voilà. C'est... Non, mais moi, je suis assez d'accord avec tout ce que dit Mathieu, tout ce que vous dites tous les trois. Non, mais je suis totalement... Je suis à 400% d'accord. Non, mais
c'est hyper intéressant, je pense que... L'essentiel des dentistes aujourd'hui en France n'ont pas cette vision, cette expérience.
Il y en a quand même pas mal, quand même, aussi. Je sais pas vous, votre force, c'est d'être gros. D'accord, il y a quand même des gens qui cherchent à faire l'organisation. Non, il y a quand même des cabinets, il y a plein de cabinets qui font de l'organisation et qui
réfléchissent à l'essentiel des dentistes.
Après, moi, ce que je trouve très fort dans chez là, c'est dans mon domaine que je connais, qui est l'endodontie. L'endodontie, c'est quand même très rare d'avoir une structure, voire c'est quasiment unique. Aujourd'hui, dans les cabinets aussi pas gros, donc je ne vais pas vous vexer, aussi important. Il y a Guillaume Joigny qui est quand même ça a une grosse structure. Je réfléchis qui est aussi nombreux que vous et Guillaume. Je
pense qu'il y a
Toulouse, Cédric Bureau, tout à fait, ouais, qui est aussi. Donc c'est vrai, il n'y en a pas non plus 36 000. Hein, voilà. Et c'est vrai que vous, alors je connais moins Cédric, mais je sais que Cédric aussi, il est bien organisé.
Ouais, je pense qu'il a un peu poussé la question, non, Cédric, mais il est organisé.
Et Guillaume, le connaissant aussi, genre, je vois un petit peu, je suis, il est en train de tout organiser pas mal aussi. Mais vous avez vraiment cette dimension, en tout cas, de management et tout, qui est poussée, mais en fait, avec plus d'expérience, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez ça depuis plus longtemps, et avoir poussé ça, genre la salle de sport, tout ça, c'est pareil, c'est débile, mais c'est des petits trucs, le frigo, il y a une ambiance, on vient chez vous, sur l'ergonomie. Sur l'ergonomie, souvent on parle, oui, l'ergonomie, c'est le succès en endodontie, c'est améliorer la productivité, c'est la santé des équipes soignantes. Mais c'est aussi, avant tout, le plaisir au moment où tu vas franchir cette porte pour aller bosser. Et ça passe par du temps autre que sur un fauteuil. Souvent, on se dit, bah tiens, on va gagner notre vie, on va travailler. Et vous passez beaucoup de temps et vous êtes organisés tous ensemble pour que votre univers de travail fasse que quand vous franchissez cette porte le matin et vos assistantes, alors je ne sais pas si c'est la réalité, hein, en tout cas, c'est ce que je ressens, moi, il y a le mot plaisir.
Non, c'est... Bah, merci beaucoup.
Il faut
prévenir les gens qu'on a rien prévu. Hein, sur ce
qu'il y a,
Coris. C'est vrai qu'on s'est un peu éloigné. Là, je reprends mes notes. On s'est un peu éloigné du sujet qui était le travail à quatre mains. Mais la conclusion qu'on peut avoir, c'est que oui, c'est mieux d'être assisté à quatre mains. On sera plus performant en termes de temps et aussi de prévention des troubles musculo-squelettiques. On peut résumer ça comme ça. Mais sans management, c'est dangereux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, sans mettre en place?
Ouais.
Et c'est peut-être ça la conclusion, en fait. C'est-à-dire que c'est pas non plus... Parce qu'on peut tomber dans... Si on délaisse ce management, on peut vite avoir quelqu'un qui devient...
Une charge.
Une charge.
Voire un tyran.
C'est ce qu'on appelle... c'est ce que Cédric Watine appelle une diva et qui, du coup, impose son rythme. Et voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour ce nouvel échange, encore une fois. On a un peu fait une digression. Pas d'IES, hein, c'est ça. Mais voilà, écoutez, c'était très agréable. À très bientôt, merci les copains.
À bientôt, merci.
Et on remercie Pauline Bussy pour toute cette réalisation autour de tous ces podcasts.
Merci Pauline.
Merci Pauline.